va faire une première lecture. Il y aura pas mal de passages bibliques. Nous allons lire 2 Corinthiens, 2e épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. 2e épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5 et verset 17. Un verset que vous connaissez sans aucun doute si vous êtes habitué à la parole de Dieu et à la lire. Voici ce que l'apôtre Paul écrit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je vais faire plusieurs lectures dans différents passages et je vais emprunter plusieurs de ces passages à la fameuse transcription de M. Quen. Je vous l'ai mis à l'écran pour ce verset. Voici ce qu'il écrit. Si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau, il est recréé. L'ancien état est dépassé, ce qu'il était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé, voici, tout est devenu nouveau. Amen. Alors, souvent dans cette transcription, qui est plus une paraphrase, il a tendance à délayer, si vous voulez, le texte, à le rendre un peu plus complet, mais toujours dans l'esprit des traductions, bien évidemment. Alors, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Communion vivante, un ancien état, ce qui est dépassé, en fait, les choses anciennes, un ancien état, qui est dépassé, il est comme recréé, et j'aime beaucoup cette notion, la nouvelle création a déjà commencé. Il est évident que pour nous, le plus important nous attend, c'est le ciel. Et tant qu'on est sur la terre, eh bien, on est soumis à tout un tas de contingences bien douloureuses et bien difficiles. Mais quelle grâce, bien-aimé, de réaliser que nous sommes devenus une nouvelle création en Christ. C'est pas beau, ça? C'est pas mal, quand même, hein? Après avoir passé 10 jours en Corse, on a revu des frères et sœurs. Je vous ai dit tout à l'heure, on s'est reconnus. Mais on a reconnu aussi qu'on avait vieilli, hein. Ça, c'est sûr, hein. On a pris 20 ans comme ça. Ça se voit, hein. À un moment donné, ça se voit. Une nouvelle création, nouvelle créature. C'est quelque chose qui est quand même intéressant. Alors, il est évident que si ce matin vous revendiquez votre appartenance à Dieu, si vous dites que vous êtes chrétien, alors vous possédez tout un tas de choses et plusieurs choses que nous allons partager maintenant. On va en quelque sorte, si vous voulez, décortiquer, on va faire l'autopsie de ce que ça signifie la nouvelle naissance, nouvelle création. Parce que dans la Bible, vous avez tout un tas d'indications et tout un tas de mots qui sont utilisés à cet effet et quelquefois on les a tous mis ensemble comme une potion magique, et de tout cela, on est sorti notre nouvelle naissance, notre nouvelle vie en Dieu, mais de décortiquer, de revoir tout le process, tout le processus que Dieu a mis en œuvre, ça peut être une bonne chose encore ce matin de revenir sur cette réalité-là. Béni soit Dieu, les choses anciennes sont passées. Je le crois de tout mon cœur, mon ancienne vie, elle n'existe plus. Ce que j'étais avant est mort parce que je suis ressuscité avec Christ. Ce qui était une entrave, ce qui faisait de moi un pécheur condamnable, tout cela a été effacé et la nouvelle création est en route, la nouvelle création est en marche et que Dieu soit béni pour cela. Alors, par plusieurs choses, eh bien, il est important de réaliser l'œuvre que Dieu accomplit au quotidien pour nous. La première des choses, nous possédons un nouvel esprit, un nouvel état d'esprit, si vous voulez. Comment ? Par la repentance. On va le lire ensemble dans Actes chapitre 20, et versets 20 et 21. Actes chapitre 20, versets 20 et 21. L'apôtre Paul s'est rendu à Éphèse et il va prendre le temps de discuter avec les anciens d'Éphèse. Et il va leur rappeler, parce que maintenant il va s'en aller, il va les quitter. Il y a passé un bon moment, un long temps avec eux, mais maintenant il va s'en aller et il a besoin de les encourager, il veut les encourager. Voici ce qu'il leur dit. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. À chaque fois que je vais revenir sur ces différents termes qui sont bibliques et qui reviennent dans la Bible, je vais vous en donner la définition telle que vous pouvez la trouver dans n'importe quel dico, et peut-être que cela pourra vous permettre de dissocier un petit peu tout le processus qui s'est accompli en vous. La repentance, se repentir, qu'est-ce que ça signifie ? Aujourd'hui, c'est un terme que les gens n'aiment pas trop utiliser. D'ailleurs, c'est souvent un terme que l'on associe au langage biblique, comme le péché, péché, repentance. C'est les gens qui n'aiment pas trop ça. Des États ont fait vœu de repentance, des chefs d'État ont fait vœu de repentance, mais ça passe rarement bien parce que ça ramène l'histoire, ça réveille le passé, et quelquefois, on n'a pas trop envie d'entendre et de revenir sur le passé. Mais l'apôtre Paul insiste. L'apôtre Paul dit qu'à chaque fois qu'il a été quelque part, qu'il a annoncé l'Évangile, il a annoncé la repentance. En fait, la repentance, ça signifie quelqu'un qui se repent, ça signifie qu'il a honte, qu'il ressent de la douleur au-dedans de lui, qu'il a, pour ainsi dire, des remords, mais pas que des remords. Les remords, c'est trop humain. Il faut quelque chose de spirituel. C'est cela, la repentance. Il est comme contrit au-dedans de lui, comme s'il était envahi de regrets. Et pourquoi ? À cause de tout ce qu'il a fait. À cause de tout ce qu'il a commis comme erreur, comme faute, tout un tas d'agissements qu'il regrette. Il a commis quantité de fautes, et d'un coup, tout cela lui revient, mais comme de plein fouet au visage. Et là, il est couvert de honte. Et là, il se dit, mais malheur à moi. Malheur à moi, qu'ai-je fait ? Vous avez un homme dans l'Ancien Testament qui a vécu exactement cela. Il s'appelle Ésaïe, le prophète Ésaïe. Alors qu'il voit la majesté de Dieu, il va tomber à terre. Il va s'humilier en disant « Malheur à moi, je suis un homme pécheur ». Il y a comme un sentiment de honte, comme un sentiment de faiblesse, de fragilité qui l'envahit à ce moment-là. La repentance, entendez bien, bien-aimé, est indissociable d'une rencontre avec Dieu. Si vous dites que vous avez rencontré Dieu, mais que jamais vous n'avez ressenti du remords, des regrets, de la honte par rapport à ce que vous aviez fait avant de connaître Dieu, vous n'êtes pas passé par la repentance et on peut quand même douter de la profondeur et de la réalité de votre rencontre avec Dieu. Il est possible, et tout un tas de gens vous diront, j'ai rencontré Dieu, j'ai fait une expérience mystique, spirituelle, tout est possible. Mais là, on parle d'un cheminement qui va entraîner une nouvelle naissance. Et pour entrer dans cette nouvelle naissance, il y a évidemment cette nécessité de cette rencontre avec Dieu. J'ai envie de dire que quand on rencontre Dieu, c'est comme un électrochoc. Ça vous est déjà arrivé de bricoler en électricité ? Ouais, moi ça m'est arrivé, hein. J'aurais pas dû, hein. Et de prendre le jus. Ça vous est arrivé ? Parce que je suis pas un bon électricien et vous éteignez le compteur une fois, deux fois, trois fois, ça marche pas. La quatrième fois, vous oubliez de l'éteindre, vous regardez, vous débranchez la prise, vous mettez les doigts. Et là, vous prenez une châtaigne. Ouh, ça fait mal, hein. C'est pas un électrochoc, mais en tous les cas, c'est un choc, hein. Électrique, ça fait du mal. Je crois que la rencontre avec Dieu... Regardez la conversion de l'apôtre Paul. Il tombe à terre, il est comme foudroyé. Dieu lui parle, la repentance. C'est quelque chose de puissant, la repentance. Mais vous comprenez que, évidemment, c'est un électrochoc parce que, en présence d'un Dieu saint, parce que nous sommes dans la présence de Dieu à ce moment-là, en présence d'un Dieu parfait, qu'est donc l'homme ? Qu'est-ce qu'on est face à Dieu ? Ça fait un peu sourire quand certains pensent que quand ils se trouveront au ciel, ils vont s'expliquer avec Dieu. Il n'y aura pas d'explication. Non, ça c'est un leurre, il n'y aura pas d'explication possible. Non, devant Dieu, La Bible dit que toute bouche sera fermée et tout genou fléchira. C'est impossible, impossible. Donc la repentance, c'est quelque chose qui est nécessaire et c'est une des étapes de la nouvelle naissance. Donc lorsque eh bien, les choses anciennes sont passées et que toutes choses deviennent nouvelles, il se passe quelque chose, tout d'un coup vous avez un nouvel état d'esprit. L'apôtre Pierre, dans le début du livre des Actes, l'a annoncé à chaque fois qu'il a prêché l'évangile. C'est ressorti. Actes chapitre 2, il y a eu la guérison du boiteux à la porte du temple. Pierre prêche l'évangile et au verset 37 et 38, le peuple, après avoir entendu le discours, a eu le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Que ferons-nous ? » Et la réponse de Pierre, elle est simple. Pierre leur dit, « Repentez-vous. » C'était la base. « Repentez-vous. » Ce n'est pas possible de vivre une expérience avec Dieu si on ne se repent pas. Ce n'est pas possible. Et si vous dites que vous n'avez pas besoin de repentance, un autre texte de la Bible nous l'enseigne, alors vous faites Dieu menteur si vous dites que vous n'avez pas de péché et que vous n'avez pas besoin de vous repentir. Alors, la repentance, ce sont des regrets, c'est une honte indicible, une douleur profonde, des remords, une contrition à cause de toutes les fautes commises. Évidemment, quand on apporte tout cela à Dieu, il y a un changement, il y a une délivrance. Un peu plus loin, au chapitre 3, c'est la même chose. Repentez-vous et convertissez-vous. Et il le dira d'ailleurs quand il rendra témoignage devant le roi Agrippa, « Partout où j'ai annoncé l'évangile, j'ai annoncé aux hommes, juifs ou grecs, qu'ils avaient à se convertir et surtout à se repentir. » Première chose, la repentance. Deuxième chose, nouvel état, par ce que la Bible appelle la justification. Justifier. Qu'est-ce que ça veut dire, justifier ? Justifier, selon le dico, ça veut dire acquitter. Innocenter, blanchir, les hommes, en matière de blanchiment, ils sont forts. Hein. Ce n'est pas la même chose. Hein. Blanchir, couvrir, disculper, décharger. En fait, je vous lis le passage, épître de Paul aux Romains, chapitre 4, si vous voulez le lire avec moi. Romains, chapitre 4 et verset 25. Romains, chapitre 4. Et verset 25, Jésus notre Seigneur est ressuscité d'entre les morts, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Jésus est ressuscité pour montrer au diable qu'il n'aurait pas le dernier mot, parce que Jésus ressuscité, c'est le diable défait, c'est le diable vaincu. Ça, c'est la grande leçon spirituelle, mais l'autre grande leçon, c'est que pour entrer dans une vie nouvelle avec Dieu, il fallait être justifié, il fallait être acquitté, il fallait être blanchi, il fallait être innocenté, il fallait être disculpé, déchargé de nos fautes et du salaire de nos fautes. Et ça, ce n'était pas possible humainement. La réalité était que nous étions coupables et condamnables à cause de notre péché. Toujours dans cette lettre aux Romains, l'apôtre Paul le dit en deux passages, « Nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres, ses propres œuvres. Nul ne sera justifié par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » On n'a pas le choix. On est condamné à cause de nos fautes. Nous sommes condamnables et condamnés. Un peu plus loin, au chapitre 6, il dira « Le salaire du péché, c'est la mort. » On n'a pas de solution. Mais grâce à Dieu, Jésus est venu avec la solution. Et quand il donne sa vie, il paye à notre place. Et quand il ressuscite d'entre les morts, il nous dit « Je t'innocente, je te disculpe, je te blanchis, je lave ta souillure et je te rends libre. » Finalement, aucune possibilité humaine de changer notre nature pécheresse. Il faut comprendre, bien aimé, que ce que Jésus fait à la croix, c'est un cadeau extraordinaire. Hein. C'est un miracle, hein. Franchement, c'est un miracle. C'est un cadeau extraordinaire, c'est une grâce infinie. Et jamais vous rappeler que notre nature humaine est si faible et le pouvoir du péché est si redoutable que s'il n'y a pas justification, s'en sortira jamais. Quelqu'un a dit que le pécheur est une arme de destruction entre les mains de Satan, tandis que le pécheur justifié est un trophée témoignant de la victoire de Christ sur le diable. Vous entendez ? Le pécheur est une arme de destruction entre les mains de Satan. Regardez autour de vous, regardez le monde. Et puis le pécheur justifié est un trophée témoignant de la victoire de Christ sur le diable. Romains, chapitre 6, versets 12 et 13, l'apôtre rappelle que nous étions des vases de colère, nous étions condamnables, nous étions condamnés à cause de nos erreurs et de nos fautes, et nous ne pouvions pas nous en libérer. La loi du péché dominait sur nous. La troisième chose, c'est que nouvel esprit, nouvel état, forcément nouvelle vie. Et vous êtes appelés à une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie par ce que la Bible appelle la régénération. On peut le lire dans l'épître de Paul à Tite, au chapitre 3 et au verset 5. Je vous fais travailler ce matin. Tite, chapitre 3, verset 5. « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, si tant est que quelqu'un pense qu'il se débrouille pas trop mal, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération. » Vous en conviendrez, justification, régénération, sanctification, conversion, on a tout mis ensemble. Hein. On a du mal à les dissocier bien souvent, on a du mal à comprendre quel a été le travail, le processus qui s'est fait l'un après l'autre. La régénération, dans un dictionnaire, là encore, vous retrouverez ça, régénérer, c'est reconstituer, c'est renouveler en redonnant les qualités perdues. Tiens, c'est intéressant. C'est renouveler en redonnant les qualités perdues. Et curieusement, dans un dictionnaire, j'ai même trouvé comme synonyme résurrection. On ne peut pas faire mieux, hein ? Résurrection. Pas dans un dictionnaire biblique, hein ? Résurrection. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Lorsque vous vous êtes donné à Christ et lorsque vous l'avez accepté comme votre sauveur, vous êtes né de nouveau. Ça veut dire que Dieu vous a donné une nouvelle vie. Mes frères et sœurs, elle est réelle, cette nouvelle vie. Elle est réelle. Ce n'est pas sur le papier. Ce n'est pas dans un registre d'église. Ce n'est pas sur une carte de membre. Je suis chrétien. Non, c'est à l'intérieur de vous. C'est à l'intérieur de vous, cette nouvelle vie. Et si elle n'est pas à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui a bugué à un moment donné. Bien-aimés, ne traînons plus notre misère. Pourquoi faudrait-il traîner sa misère ? Pourquoi faudrait-il traîner derrière nous des casseroles toute notre vie ? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. En fait, c'est le Saint-Esprit qui nous le dit ce matin. Et je vous rappelle l'explication de ce verset. Si quelqu'un est en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau. Il est recréé. L'ancien état est dépassé. Je reviens sur cette explication. Renouvelé en redonnant les qualités perdues. L'ancien état est dépassé. Ce qu'il était autrefois a disparu. A disparu. Quand on est devenu chrétien, on n'a pas changé de visage. Normalement. Sauf si avant, vous ne faisiez que la tête, normalement, vous ne devez plus la faire. Normalement. Si avant, vous étiez marqué par, je ne sais pas, la douleur et une souffrance intérieure, Jésus vous a libéré, forcément, votre visage a changé. Mais vous êtes resté le même. Vous êtes la même personne. Sauf que votre ancienne vie, elle n'existe plus. Vous entendez ? Elle n'existe plus. Et c'est quand même important de s'en souvenir, bien-aimés. Parce que le diable ne cessera de vous dire que c'est faux. Le diable ne cessera de vous dire que non, vous n'êtes pas dans une nouvelle vie. Vous êtes toujours à récupérer les anciens problèmes, les anciennes difficultés et à réparer. Vous êtes en train de marteler quelque chose en le façonnant au mieux pour que ça se polisse un petit peu, que les angles soient moins rugueux. Non, l'ancien est terminé. Ce qui était ancien est mort. Vous avez été recréé, bien-aimé, recréé. Alors, dans l'absolu, c'est un travail qui s'achèvera à la résurrection, puisque le corps est semé corruptible, lui, il ressuscitera incorruptible. Mais quand même, on est sur ce chemin-là. et je vous encouragerai à rester sur ce chemin-là. Aujourd'hui, on est dans une société qui prône, et vous le savez, qui prône le bien-être et surtout le coaching de mille et une manières différentes. Christ, ce n'est pas notre coach. C'est notre sauveur. C'est notre rédempteur. C'est notre Seigneur, mais pas que le nôtre. C'est quand même le Seigneur de l'univers. C'est le Créateur. Alors vous pensez que vous êtes arrivé en mauvais état, il y avait des tas de pièces à changer, et vous pensez qu'il a juste bricolé une pièce d'occasion ? Vous ne pouvez pas mettre une pièce neuve ? Vous ne pouvez pas réparer complètement ? Il était capable de le faire. Eh bien, restez dans cette vie-là, dans cette dimension-là, d'un Dieu qui vous a régénéré, frères et sœurs, régénéré, renouvelé, en redonnant les qualités perdues. Je me souviens du témoignage qui avait été rendu par un ami. Il avait été rendu à mon frère. Mon frère avait accepté Dieu dans sa vie quelque temps avant moi, et son changement avait été radical, tellement visible. Et un jour, alors que je discutais avec un ami, à mon tour, j'avais fait cette expérience du salut, et je lui expliquais ce que Dieu avait fait dans ma vie. Et en fait, on rencontre un ami commun qui connaissait mon frère. Et cette personne était étonnée de m'entendre parler, pensant que oui, c'est un cas isolé, c'est quelque chose de très spécial. Et mon ami se met à défendre mon point de vue, ça m'a fait plaisir. Hein. Et il lui dit, mais attends, il n'y a pas que, en parlant de moi, il n'y a pas que Stéphane, hein. C'est arrivé à d'autres. Et l'autre, très sceptique, lui a dit, ouais, d'accord. Et d'un coup, il se souvient de mon frère. Et il lui dit, tu te souviens de Philippe, mon frère, tu te souviens de lui. Ah oui, ça je le connais. Hein. Eh bien, tu vois, Philippe, à l'extérieur, c'est le même, mais dedans, ce n'est pas le même. C'est comme s'il était rené, né de nouveau, dans la bouche de quelqu'un qui n'était pas chrétien. Vous vous rendez compte ? Dans la bouche de quelqu'un qui n'avait pas fait d'expérience. Il ne pouvait pas l'expliquer mieux que cela. Eh bien, j'étais bien content qu'il trouve les mots, parce que moi, je n'arrivais pas à les trouver. Je m'entortillais. Il a bien sorti la chose, quand même. C'est exactement ça. À l'extérieur, c'est le même, mais dedans, ce n'est plus le même. À l'extérieur, vous devez être les mêmes, certainement, avec quelques années de plus, mais à l'intérieur, vous êtes né de nouveau, régénéré, et finalement, on revient bien plus au plan originel, évidemment au plan parfait de Dieu. L'enfant de colère est mort au profit de l'enfant de Dieu. L'apôtre Paul le dit aux Éphésiens, vous étiez morts, nous étions des vases de colère, mais par sa grâce, Dieu nous a régénérés et nous sommes devenus des vases d'honneur. La nouvelle vie, c'est la seule en fait qui, à mon sens, est digne d'être vécue. Quatrième chose, nouvelle attitude, nouvelle vie, nouvelle attitude. Parce que si vous dites « je suis né de nouveau » et si rien ne change dans vos attitudes, certains vont vous demander explication de cela. Il y a un verset qui en rend témoignage, il est tout simple, c'est dans l'évangile de Matthieu, Jésus, au chapitre 18, dit ceci alors que des disciples posaient la question « lequel est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Entre nous là, ce sera lequel le plus grand là-bas ? Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, si vous ne vous convertissez, si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Nouvelle attitude par la conversion, nouvelle vie par la régénération, nouvel état par la justification, nouvel état d'esprit, nouvel esprit par la repentance. La conversion, qu'est-ce la conversion ? La conversion, c'est une transformation. La conversion, c'est une métamorphose, dans le dictionnaire, hein, métamorphose. La conversion, c'est une modification, c'est un changement. Bien-aimé, s'il y a bien quelque chose qui doit changer quand on devient chrétien, c'est notre attitude. S'il y a bien quelque chose qui doit changer, mais immédiatement, ce sont nos attitudes. C'est immédiat. Si ça ne change pas, ce n'est pas possible. Il n'y a pas eu de régénération, il n'y a pas eu de justification, il n'y a pas eu de rencontre avec Dieu. D'ailleurs, deux hommes de l'Ancien Testament en ont rendu témoignage. Vous avez notamment le prophète Joël et le prophète Osée qui en parleront. Le prophète Joël dit ceci: quand le peuple a péché et doit revenir à Dieu, il dira ceci: déchirez vos cœurs. Attitude, c'est une attitude cela. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère. Le prophète Osée dira au chapitre 14, versets 1 et 2, « Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité, apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. » Apportez des paroles, allez-y, donnez votre cœur, allez-y vraiment. Finalement, envie de plaire à Dieu, ça devient une priorité. J'espère, frères et sœurs, que depuis le commencement, que vous avez entamé une marche avec Dieu, votre seul désir quand vous ouvrez les yeux le matin, c'est de plaire à Dieu. J'espère du fond de mon cœur que c'est la première pensée qui vous vient à l'esprit quand vous ouvrez les yeux le matin. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour t'être agréable, Seigneur ? C'est à cela que nous sommes appelés. Et ça, littéralement, c'est un changement. C'est un demi-tour. C'est la conversion. On le dit souvent, je me suis converti. Ah bon ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et on explique notre témoignage, on explique notre vie nouvelle, on explique notre conversion. Frères et sœurs, c'est important de comprendre qu'il nous faut plaire à Dieu. C'est tellement important. Alors, vous comprenez que vous ne changez pas pour vous-même et vous ne changez pas pour les autres. Vous changez pour Dieu. Vous changez pour plaire à Dieu. Après, il y a des conséquences au quotidien, heureusement. Je me souviens de quelqu'un qui venait entendre l'Évangile, venait écouter l'Évangile parce que cette personne avait des problèmes par-dessus la tête. Et elle avait une fixation, cette personne-là. Sa fixation était « Quand est-ce que Dieu me débarrasse de mes problèmes ?» Ce qui était logique, hein. Quand on a des problèmes... Et évidemment, on lui a dit que Dieu pouvait le faire. Heureusement, parce que déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est le message de l'Évangile. Donc, on lui a dit, eh bien, Dieu va le faire, Dieu va agir. Et ça ne se faisait jamais. Ça ne se faisait jamais. Il y a un problème quand même, ce n'est pas possible. On lui demandait de croire, d'avoir la foi, de mettre sa confiance en Dieu. Ça ne marchait jamais. Et un jour, on a compris. Et d'ailleurs, la personne a cessé de venir. En fait, elle ne voulait qu'une seule chose. Elle ne voulait pas plaire à Dieu. Elle voulait être débarrassée de ses problèmes. Elle ne voulait pas plaire à Dieu. Elle voulait plaire à ses propres projets, aux projets qu'elle avait menés, etc. Donc, être débarrassée de toutes ses difficultés. Mais si ce n'est pas pour Dieu que l'on va vers Dieu, si c'est que pour nous, ça ne marchera pas. Ou alors, ça ne durera pas longtemps. Ça ne marchera pas. Dieu est lent à la colère, riche en bonté. Il use de miséricorde et de patience. Mais ce qu'il souhaite, c'est littéralement une conversion. L'apôtre Paul le dit aux Colossiens, c'est un verset qui est très, très intéressant. Colossiens, chapitre 1er et verset 9. Je vais vous le lire dans cette transcription. Colossiens, chapitre 1er, verset 9. Aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne vous avons jamais oublié dans notre intercession. Nous demandons à Dieu que vous puissiez connaître et comprendre toujours mieux sa volonté. Que le Saint-Esprit vous accorde la sagesse et le discernement spirituel. Nous lui demandons aussi que votre conduite fasse honneur au nom du Seigneur et lui plaise à tous égards, que vous réjouissiez son cœur en portant des fruits qui lui soient agréables. Amen. La volonté de Dieu, c'est que vous le serviez, c'est que vous lui soyez agréable, que votre vie soit belle, que votre vie soit heureuse, que votre vie soit transformée, évidemment. Mais le plus important, c'est que vous lui soyez agréable. Si vous perdez de vue cela, vous allez glisser, vous allez perdre petit à petit votre assurance, votre paix, votre joie, votre tranquillité, votre sérénité, parce que ce n'est plus la même motivation. Gardez votre motivation qui n'est autre que de plaire à Dieu, nouvelle attitude par la conversion. Je vais arriver à la fin. Nous avons maintenant une nouvelle position devant Dieu et ça c'est par la sanctification. Vous voyez, c'est tous des mots qu'on utilise mais dont on ne fait pas forcément la lumière tout le temps. La sanctification, dictionnaire, processus par lequel une personne est libérée du péché en devenant pure et sainte. C'est un processus. D'ailleurs, sanctifier veut dire mettre à part. Et quand Dieu vous sanctifie, il vous met à part. Mais il vous met à part de quoi ? Il vous met à part du péché, il vous met à part de la proximité du péché. Néanmoins, on va lire le texte parce qu'il est important, dans cette lettre de Jude, c'est le verset premier, qu'est-ce qu'il dit à ces chrétiens à qui il écrit ? À ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Bien-aimés, vous avez été appelés, vous êtes aimés et vous êtes gardés. C'est pas beau ça ? Vous avez été appelés, vous êtes aimés et vous serez toujours gardés dans la mesure où vous ferez ce qu'il faut pour cela, la sanctification. Ça va de pair avec la marche avec Dieu, on ne peut pas faire autrement. La proximité avec Dieu nous met à part, hein, forcément. Cette proximité doit déteindre sur nous. Quand Moïse a été dans la présence de Dieu, ça déteignait sur lui. Quand bien d'autres ont été dans la présence de Dieu, ça a toujours déteint sur eux. Alors, plus vous passerez du temps avec Dieu, plus vos pensées seront purifiées. Vos pensées seront pures. Plus vous passerez du temps devant Dieu d'une manière ou d'une autre, en lisant votre Bible, en priant, en écoutant l'Évangile, bref, en servant Dieu, vos attitudes seront sanctifiées. Vos attitudes seront plus saintes. En fait, frères et sœurs, nous possédons une entrée libre dans la présence de Dieu. Ne nous en privons pas. Trop souvent, on s'en prive. Un peu comme ceux qui disent « Ah, ben tiens, c'est les vacances, je zappe de lire ma Bible, je zappe le culte, je suis en vacances. » Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Prenez au contraire plus de temps que vous n'en avez tout au long de l'année pour aller dans la présence de Dieu. C'est important d'aller dans la présence de Dieu. C'est capital. Plus on profite de la présence de Dieu et plus on est sanctifié. Et vous pouvez entretenir cette intimité avec Dieu. Alors ne la négligez pas. Ne négligez pas, ne vous privez pas de la présence de Dieu parce qu'on ne ressort jamais pareil d'un temps passé devant Dieu. Non, on ne ressort jamais identique. On ressort toujours différent. Le mot de la fin, nouvelle place pour nous. Alors ça, c'est plus compliqué, la glorification. Parce que c'est écrit dans la Bible, je suis obligé de vous le citer ainsi. Donc Romains, chapitre 8, on va le lire ensemble. Romains, chapitre 8, verset 30. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Qu'est-ce que c'est que la définition de la gloire ? La définition de la gloire, dictionnaire, c'est le prestige, c'est la grandeur, ce sont les honneurs, c'est la splendeur. J'ai presque envie de dire que ça définit assez bien le ciel, non ? Ça définit assez bien le ciel. La Bible dit que nous sommes transformés de gloire en gloire par l'action de l'Esprit. Pourquoi donc ? Pour qu'un jour, l'Église sainte, sans tache, irrépréhensible, soit l'épouse de Christ dans le ciel. Alors notre destinée, c'est le ciel, évidemment. Et puisque nous sommes sur cette route-là, sachons que notre place avec Dieu, elle est de marcher avec lui ici-bas, mais elle est surtout qu'elle est avec lui dans le ciel, parce que Jésus est parti pour nous préparer une place là-haut. Bien-aimé, votre place, elle est là-haut. Elle existe, votre place. Et nous régnerons pour l'éternité avec lui. Je vous cite, parce que c'est important cela, parce que j'ai envie de dire que ce sera un retour à la maison. C'est à la fois un avenir extraordinaire. Hein. Aller au ciel, c'est un retour à la maison, hein. À la maison du Père. Nous serons enfin avec lui pour l'éternité. Mais ça a toujours été cela dans le plan de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 60, et au verset 19, il est dit... En parlant du ciel, ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire. Et si je vais dans l'Apocalypse, il y a une résonance à ce passage dans le chapitre 22, où il est dit ceci, au verset 3, il n'y aura plus, on parle du ciel, il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front, il n'y aura plus de nuit, ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Dans les lettres que Jean a rédigées pour différentes églises, il dira ceci, et ça nous concerne, bien-aimés. Et je prie que l'on arrive au bout, parce que la Bible dit, « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs, je n'effacerai point son nom du livre de vie. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu » et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Et enfin, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Frères et sœurs, elle n'est pas belle la vie chrétienne? Elle n'est pas belle la nouvelle création? Elle n'est quand même pas belle, la nouvelle créature. Frères et sœurs, soyez sûrs de cela. Si quelqu'un est en Christ, si vous avez une communion vivante avec Dieu, alors les choses anciennes sont passées. Et laissez-les derrière. Ne déterrez pas le passé, ne laissez personne déterrer le passé. C'est derrière. Et maintenant, vous êtes devenu une nouvelle création. Vous êtes une nouvelle créature. C'est un processus qui continue jour après jour. Alors, comme Paul... On pourrait prier pour vous de cette manière-là. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, nouvel esprit par la repentance, nouvel état par la justification, nouvelle vie par la régénération, nouvelle attitude par la conversion, nouvelle position par la sanctification, nouvelle place par la gloire à venir. Alors tout cela, c'est à nous. Eh bien, vivez-le et profitez-en et que le Seigneur vous bénisse. Amen.